Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute.
Spectacle vivant.
Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinot et Camille André. Prise de son assurée ce soir par Bruno Gagnère-Fontani. Réalisation Lise Combe. Autour de moi, ce soir, Fabienne Pascaud, Philippe Chevillé, René Solis pour parler ensemble de L'Avare de Molière. Mise en scène par Ludovic Lagarde, en ce moment à l'affiche du Théâtre de l'Odéon. Les créanciers d'Auguste Strindberg, mise en scène Anne Kessler, en ce moment au Studio Théâtre de la Comédie Française. Et enfin, Les Naufragés, d'après le roman de Patrick de Clercq, mise en scène Emmanuel Merieux au Festival des Nuits de Fourvière à Lyon. Aïssa Tundoy est là pour surveiller les fils Twitter et Facebook et donner à entendre les commentaires que vous pourriez avoir à faire ou les questions à poser concernant notre sommaire. Et puis, cadeau à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour le spectacle Flexen de Reggie Gray et Peter Sellars. Des places pour ce jeudi 14 juin à 20h30, c'est à la Villette à Paris. Le metteur en scène Ludovic Lagarde retrouve son comédien fétiche Laurent Poitrenaud, avec qui il a monté de nombreux textes d'Olivier Cadio, mais s'aventure cette fois dans le théâtre classique avec L'Avare de Molière. C'est une production qui date déjà, je crois, 2014 ou 2015, créée à la Comédie de Reims, que dirige Ludovic Lagarde. Cette comédie en 5 actes et en prose, rappelons-le, présentée pour la première fois le 9 septembre 1668, avec une action qui se déroule à Paris, avec un vieil avare donc, riche, Harpagon, qui a 2 enfants, Élise, amoureuse de Valère, qui est un gentilhomme napolitain, nous dit l'histoire, qui est au service de son père en qualité d'intendant, et puis Cléante qui lui souhaite épouser Marianne, une jeune femme qu'il a croisée plusieurs fois dans la rue et qui vit chez sa mère sans fortune. Harpagon, on le sait, terrifié à l'idée qu'on puisse découvrir sa cassette cachée dans son jardin avec 10 000 écus d'or dedans quand même, et puis par ailleurs il annonce à ses enfants qu'il entend épouser Marianne, qu'Élise doit se marier le jour même et sans apport de dot, ce qui est quand même beaucoup mieux avec Anselme, un vieillard. Cléante, lui, destinée à une veuve, bref, rien ne va.
Wouhou ! Tu crois ce que je crois ? Je veux que tu me dises à qui tu parles quand tu dis ça !
Nous avons tous deux quelque chose à vous dire.
Et si votre amour, belle Élise, est capable d'une fermeté ? Oui ! Il faut que la fille obéisse à son père!
Cela me remettra sur pied et je vous en serai éternellement obligé! Oh!
De l'argent! De l'argent! Aïe, que ce mot à la bouche, hein! Toujours parler d'argent!
Il n'y a pas de monsieur Maître Jacques pour un double! Si je prends un bâton, je vous rendrai l'importance!
Comment?
Ne vous offensez pas, ma belle! Si je viens à vous avec des lunettes, je sais que vos appâts frappassés les yeux sont assez visibles d'eux-mêmes et qu'il n'est pas besoin de lunettes pour les apercevoir.
Et quoi ? À votre fils ?
Me regardent tous, hein ?
Et ce mec derrière ! Vous allez voir qu'ils ont pas sans doute au vol que l'on m'a fait! Allons vite! Des commissaires, des archers, des juges, des prévôts, des gènes, des potos et des bourreaux! Je veux faire pendre tout le monde! Et si je ne retrouve mon argent, je me pendrai moi-même après!
Le vol est considérable.
Il n'y a pas de supplice assez grand pour l'énormité de ce crime! Et s'il demeure impuni, les choses les plus sacrées ne sont plus en sûreté.
Quelle belle raison peux-tu me donner, voleur infâme ?
Ah, monsieur, j'ai pas mérité ces noms ! Il est vrai que j'ai commis une offense envers vous.
Voilà pour cette aguiche, comme on dit en bon français, de cette avare montée par Ludovic Lagarde, en ce moment à l'Odéon Théâtre de l'Europe. Précisément jusqu'au 30 juin, ce qui laisse quand même pas mal de temps pour aller le découvrir. On commence avec vous, Fabienne Pascaud.
Alors moi, cet avare-là, je l'ai vu à la création à Reims, et puis une fois en tournée, parce que ça a été très longtemps en tournée, mais je ne l'ai pas revu à l'Odéon. Mais c'est un spectacle...
Deux fois, ça va,
oui. Mais c'est un spectacle que j'avais beaucoup aimé, à cause de l'interprétation déjà de Laurent Poitrenaud, puisque là, ce qu'on vient d'entendre, il mélange les registres avec une virtuosité, il passe du burlesque au tragique, avec des scènes de folie. Il a une musicalité dans le timbre, dans le corps. Il joue avec son corps. Son corps exprime des choses absolument éblouissantes. Et pour la première fois, c'est un avare assez sexy. Moi, je l'avais trouvé très séduisant. Donc, en plus, ça rajoute une dimension au personnage, parce que c'est vrai que j'ai jamais été particulièrement attirée ni par Michel Bouquet ou même
Claude Hallydès.
Non. Donc, là, je trouvais que c'était une autre façon de traiter l'avare que nous montre Ludovic Lagarde, d'une façon d'autant plus féroce qu'on se trouve aujourd'hui, hein, ça se passe au début du 21e siècle, avec un avare très contemporain, qui n'est pas un trader, mais qui est dans un gigantesque entrepôt, qui pourrait être Amazon, pourquoi pas. On se rend compte que quand même son problème, c'est pas qu'il fait circuler l'argent comme pourrait le faire un trader d'aujourd'hui, justement. Son problème, c'est la rétention. Donc, mais pourquoi? Comment? Pourquoi est-on avare? Ça, je trouve que Poitrenaud le montre très bien, et dans la mise en scène de Ludovic Lagarde aussi. C'est une immense misère intérieure, un immense désarroi qui pousse à retenir, à ne plus vouloir communiquer, à tout garder pour soi, à se priver de tout pour ne manquer de rien. C'est presque une ascèse, cette avarice-là, et ça dénote en tout cas une souffrance terrible, abyssale. Donc, cette souffrance-là, c'est peut-être pour ça, à cause de cette noirceur, la pièce avait été un bide, en 1668, ça n'avait pas marché du tout comme Molière l'avait monté. Et je trouve que, avec des accents parfois à la Louis de Funès, eh bien, Poitrenaud, il est capable de monter cette tragédie-là, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans le spectacle.
Très bien. Premier regard de Philippe Chevillier à présent, cette production de l'avare.
Eh bien, moi, je l'avais vu aussi en 2014, je ne l'ai pas revu entre-temps, mais je l'ai revu à l'Odéon, et je crois, enfin d'après mon souvenir, que j'ai à peu près la même sensation. C'est-à-dire que moi aussi j'ai beaucoup aimé ce spectacle. C'était le sentiment que c'était un peu le premier grand classique français de Ludovic Lagarde, qu'il avait mis la gomme, c'est-à-dire que c'est un spectacle qui est très mis en scène, avec un choix de scénographie qui est très réussi, puisqu'on se retrouve effectivement dans cet entrepôt. On a donc un chef d'entreprise, un négociant, un commerçant, extrêmement tonique, extrêmement faussement jovial et extrêmement méchant. C'est vraiment un avare très très méchant. Et donc, ce qu'a voulu faire, me semble-t-il, Lagarde, c'est à la fois évidemment l'actualiser, puisqu'on voit bien un chef d'entreprise d'aujourd'hui, et en même temps conjuguer cette grande noirceur et en même temps beaucoup de farce. Et peut-être c'est ce qui paraît plus dans mon souvenir, peut-être que j'avais moins l'aspect farcesque, parce que ça va peut-être un tout petit peu plus vite que dans mon souvenir. Mais voilà, tout est mis en scène, c'est juste. Dès le début, la relation des jeunes gens qu'on voit à moitié nus, en fait, chaque scène où on voit, on se dit, tiens là, il fait une adaptation, une transposition. La réplique d'après, on se dit, bah non, c'est juste. Donc c'est vraiment une lecture on a l'impression qu'elle est vraiment forte sur chaque phrase. Beaucoup d'idées, une fin qui est une vraie fin de théâtre et qui est réussie. Et puis on parlait des comédiens, ils sont très bons. On a parlé évidemment de Poitrenaud, j'ai presque rien à ajouter tellement il est doué dans son jeu. Mais il y a aussi Christelle Tuel, que j'aime beaucoup, en Frosine, une Frosine femme d'affaires qui ne dédaigne pas les boissons fortes. Et puis Louise Dupuis dans Maître Jacques, le fait de mettre une fille dans Maître Jacques. Enfin, on sent qu'il y a vraiment eu une réflexion sur chacun des personnages dans un temps qui apparemment, d'après ce que dit Lagarde dans ses interviews, est assez rapide. Il a mis en scène il y a 4 ans dans une espèce d'enthousiasme et d'énergie cet avare. Donc pour moi, c'est une réussite. Voilà.
Alors, est-ce que c'est une réussite pour René Solis qui vous regarde avec un air mystérieux depuis tout à l'heure,
hein?
Et un œil coquin. René Solis.
Non, je serai un petit peu moins enthousiaste que mes camarades. Cela dit, je vais quand même pas non plus gâcher la fête. C'est-à-dire que on est d'accord.
N'hésitez pas, si vous voulez.
Non, je ne me gênerai pas, vous le savez.
Ah oui.
Le cas échéant. Non, d'accord, bien sûr, sur Poitrenaud. Rappelez que c'est un acteur formidable et que Voilà, et c'est un, effectivement, il y a un couple metteur en scène acteur avec Ludovic Lagarde, qu'il y a 20 ans, c'était le choc du colonel des Oives d'Olivier Cadiot, et que c'était extraordinaire. Ça a été à la fois une révélation de Cadiot, auteur de théâtre, en tout cas de la possibilité de faire entendre ses mots sur une scène, et puis d'un acteur qui jouait sur un mètre carré. La scène était minuscule, presque un timbre-poste, et qui tenait pendant 1h20. C'est presque une chorégraphie. Donc, Fabienne, je suis vraiment d'accord sur cette histoire du corps. C'est-à-dire que Laurent Poitrenaud, c'est un acteur qui joue avec tout, c'est-à-dire avec de la pointe de ses doigts à la pointe de ses cheveux, et qui fait passer des choses complètement étonnantes, parce qu'effectivement, il est capable de juxtaposer des registres et de passer de la farce à la tragédie. Enfin, tout ça, c'est vrai. Alors, je suis un peu moins d'accord sur la maîtrise de la mise en scène. C'est-à-dire que il y a le mérite d'essayer de renouveler le genre, en tout cas de donner une image de Molière un peu nouvelle, décalée d'aujourd'hui. Donc, il tente quelque chose qui réussit en partie. Mais je trouve quand même que sur le jeu des acteurs, par exemple, il y a des très bons moments d'acteurs. Mais je trouve que c'est plus une juxtaposition de moments et de numéros d'acteurs que une vraie. J'ai pas senti qu'il y avait un si grand travail dramaturgique que ça. Je trouve que il répond ponctuellement à chacune des scènes et il la résout. Mais je j'ai pas senti qu'il y avait un grand dessin autour de cet avare, sinon de donner libre cours au plaisir des acteurs. Alors c'est très réussi, c'est quelquefois un peu trop, mais c'est vrai que Christelle Tual en entremetteuse alcoolique, elle est totalement incroyable, elle est presque dans le trop, et ils sont tous les uns et les autres à la fois très bons et presque dans le trop, et je trouve qu'il manque peut-être une liaison d'ensemble de tout ça.
Mais
ça
c'est reste Harpagon, là, le lien.
Oui, alors c'est lui qui donne la démesure, mais c'est vrai qu'il part tellement de tous les côtés qu'on a l'impression que les autres sont aussi dans une espèce d'obligation de tenir tête et de frénésie à leur tour. Et à un moment, je trouve ça un peu déséquilibré, en fait. Reste quand même que oui, il y a des moments absolument formidables, qu'on y prend beaucoup de plaisir, qu'on voit effectivement cette histoire d'avarice inscrite dans le corps, et c'est un corps qui souffre en même temps. C'est quelqu'un qui est en souffrance. Et c'est vrai que c'est assez beau et très étonnant, parce que on est d'une seconde à l'autre dans des moments et des émotions complètement contradictoires. Voilà.
Alors peut-être pour pousser René Solis là-dessus, moi, il m'a semblé que le spectacle débutait vraiment quand Harpagon entre en scène, et Laurent Poitrenaud avec, forcément, et qu'il pouvait un peu baisser d'intensité les rares scènes où il ne figure pas, et que donc vraiment je crois aussi que c'est lui qui porte le spectacle, même s'il a des bons camarades de jeu, mais il me semble que l'énergie est quand même totalement investie dans lui et qu'il la redistribue, ou d'ailleurs le plus souvent d'une façon extrêmement méchante, mauvaise, et ça c'est assez terrible, parce que c'est vraiment un Harpagon sadique, enfin psychopathe qui est là. Et en fait la question que je me suis posée assez rapidement, et que en fait je me suis reposée tout du long du spectacle, c'est de savoir s'il n'y avait pas trop d'effets. Si chaque phrase n'était pas trop pleine d'intention, si chaque scène justement n'était pas trop pleine d'intention, on risque de pouvoir peut-être casser le rythme un peu. Moi, il me semble que c'est quand même très long comme représentation de l'avare. Ça va très vite, et en même temps, chronomètre en main, c'est pas un des avares les plus rapides qu'on ait pu voir, parce que justement tout est tellement chargé. Il me semble que chaque phrase a été travaillée, mais phrase par phrase. Moi, j'ai eu le même sentiment que vous, René Solis. Alors, j'ai pris énormément de plaisir, parce que, bon, Poitrenaud, c'est au-delà de la formule, hein, c'est quand même les changements de ton, les ruptures de rythme, les intensités variables qu'il peut mettre, être à faire le tout doux, évidemment, et être le plus terrible. C'est très, très, très bien réglé. Enfin, chaque séquence, chaque scène.
La musicalité.
C'est une chorégraphie, enfin, c'est magnifique. Christelle Tual, c'est vrai qu'entre lui et Christelle Tual, il y a une complicité de jeu qui est assez phénoménale dans les scènes qu'ils peuvent avoir ensemble. Donc Christelle Tual, elle est vraiment aussi magnifique. Il y a une vraie fin, en effet, c'est très beau. On ne révélera pas ce que l'on voit sur scène, mais il y a une idée simple, mais qui fonctionne parfaitement. Donc, énormément d'idées. Alors, c'est peut-être un peu paradoxal, mais je vous propose de réagir là-dessus. Mais peut-être trop. D'une certaine façon, Philippe Chevillier, vous avez l'air un peu d'accord avec moi.
Oui, oui, parce qu'en fait, quand j'ai insisté beaucoup sur le fait que c'était très mise en scène, c'était un petit peu la réserve qu'il y avait derrière.
C'est pas parce qu'il y a beaucoup de choses que c'est très mise en scène. C'est une accumulation.
C'est très travaillé, je dirais.
souvent.
René dit que c'est fouillis-fouillard.
Non, pas complètement.
Non, mais disons, dans la façon dont je l'exprimais, c'était un peu ça que je voulais dire. C'est-à-dire qu'il y a, qu'il y a beaucoup d'intentions et qu'il y a beaucoup d'idées et qu'il y a un petit problème des tempos. Du coup, je pense qu'il y a un problème de tempo, mais alors ce que j'essaie de voir, c'est je me demande si aussi c'est pas dans le propos qui est en fait un propos, c'est la dualité de vouloir à la fois étirer le temps pour le côté la noirceur, et c'est très sensible dans la scène justement de Frosine qui a un peu trop bu parce que ça s'étire un peu.
Beaucoup trop bu.
On est jamais dans le un peu.
C'est ma façon de dire beaucoup. Et en même temps, on a cette volonté par moment d'accélérer, d'être dans la frénésie. Et je pense que ces deux intentions s'entrechoquent. Parfois, ça donne des choses formidables, et parfois, ça ralentit. Donc, quand je voulais dire trop mise en scène, un spectacle n'est jamais trop mise en scène. Sauf que parfois, je trouve qu'il y a des spectacles qu'on nous présente comme des épures, qui sont parfois où il n'y a pas de mise en scène du tout. Et je préfère qu'il y ait un peu trop d'intentions que pas assez quelquefois, quoi.
Fabienne Pascaud.
Oui, moi, je trouve, j'aime bien cette sorte d'hystérie. Cette sorte d'hystérie-là, parce que finalement, ce que j'ai entendu aussi dans ce spectacle, c'est que la mort, elle est partout. La mère vient de mourir. Au départ, on apprend que la sœur s'est peut-être suicidée. Harpagon dit qu'il va se pendre s'il ne retrouve pas sa cassette. Donc, on sent que la pulsion de mort, elle est là, quoi. Elle est peut-être chez Molière au moment où il écrit la pièce parce qu'il a des problèmes d'argent. C'est tout ça, cette folie, c'est pour lutter contre la mort, et c'est aussi pour lutter finalement contre... Il est un peu, c'est ce que je disais tout à l'heure, il est un peu visionnaire, Molière. Il sent que l'argent va commencer à dominer le monde, à dominer le 19e siècle, que ça va plus être les trois ordres sacrés de la monarchie, mais que ça va être le fric, la bourgeoisie. Et donc tout ça, ce monde, il bouge, il est cabossé. Et moi, j'ai interprété un peu ce trop comme une peur, quoi.
René Solis.
Oui, alors sur la mise en scène, on sent aussi, mais pour le coup, c'est pas une mauvaise citation, mais des citations. Alors, en particulier, ce qui m'a frappé, c'est celle de Martha Lehr, cette histoire de baraque à frites qui n'arrêtent pas d'ouvrir et de fermer. Elle pourrait être sortie d'un spectacle de Martha Lehr. Et le côté aussi folie et clownesque et noirceur, enfin, tout ça, c'est des choses aussi qu'on peut retrouver dans d'autres spectacles. Mais non, il a le mérite, je lui reconnais volontiers, de tenter quelque chose. Au moins, ils y vont, quoi. Ils se contentent pas de remplir un cahier des charges et de faire un avare de plus bien joué. Ouais. Ils essayent des choses.
Ils montrent la violence de cette pièce.
Il y a quelque chose qu'on entend effectivement d'une brutalité qui les harcèle, qui n'est pas complètement réussi, à mon avis, toujours, mais qui au moins a ce mérite-là. Et ça, moi, bien sûr, je le reconnais volontiers.
Philippe Chevillier, à nouveau.
Oui, et puis dans la folie de cet Harpagon, dédié totalement à l'argent, on se dit ça va plus loin que le Tartuffe. Le Tartuffe, c'est un faux dévot. Lui, c'est un vrai dévot qui est fou d'argent. Il y croit vraiment. Et cette violence-là, elle est fortement exprimée par Poitronneau, c'est ce qu'on a dit, et puis par cette frénésie. Donc, oui,
faut aller.
S'il y croit à l'argent. Je ne sais même pas. Il est profondément avare, mais
c'est l'argent plutôt que le néant.
Voilà.
Oui, bien sûr. Non, mais après,
je lis dans vos pensées, Fabienne Pascaud.
Bah, la fin justifie un peu la fin de que nous ne révélerons pas.
Non.
Mais voilà, c'est l'argent plutôt que le néant. Oui, effectivement, un côté presque janséniste. Molière n'était pourtant pas janséniste.
Non, mais derrière le fanatisme, oui, il y a ça, ce vide.
Bon, bah en tout cas, ce spectacle nous intéresse, à l'évidence, mais nous avons aussi un long commentaire.
Plusieurs commentaires.
Ouais, enfin, du coup, ça va faire un long par vos mots.
C'est un avare façon Gérard Oury ou Jean Giraud pour le Curieux des Arts sur Twitter. Point de folie et encore moins de grandeur dans cette version de Ludovic Lagarde. Il salue la performance de Christelle Thuat en Frosine prodigieuse. Brushing blond platine, clone de Geneviève Jansac, accro à la vodka, jambes interminables et talons hauts, caricature de la femme d'affaires façon Sex in the City, mais pointe une touche de vulgarité dans son jeu. Négociateur, calculateur, terrorisant intellectuellement la carabine toujours à la main en Harpagon, Laurent Poitronneau est un immense acteur selon lui, mais le Curieux des Arts s'interroge. pourquoi cette gestuelle excessive de Don Salluste. Il déplore par ailleurs l'usage de ce qu'il appelle la tarte à la crème du mec à poil ou torse nu, qu'il qualifie de modernité absurde, se jugeant également, selon lui toujours, aux misères subies par le texte dans l'adjonction d'autres phrases, et se demande, jugerait-on l'avare si peu actuel pour ajouter des scories ? Il est rejoint à l'endroit de la modernité par Agapante, qui s'interroge à son tour pourquoi obligatoirement faire du moderne à partir de trouvailles censées faire changer les lignes du socialement correct en versant dans le vulgaire. C'est pour lui un avare grossier, sans beauté et sans humour. Voilà pour Agapante.
Ouais.
En contrepoint, superbe spectacle et magnifique Laurent Poitrenaud, drôle et sombre pour Bruno Michel. Et enfin, un spectacle tout simplement fantastique. Une mise en scène subtile, élégante et saisissante pour Isabeau, toujours sur Twitter.
Bon, on a eu plus de critiques comme ça parmi nos auditrices et auditeurs qu'autour de cette table. C'est très bien de faire entendre les différents sons de cloche. Sur cette avare de Molière, mise en scène de Ludovic Lagarde, c'est jusqu'au 30 juin à l'Odéon Théâtre de l'Europe. Et puis, puisqu'on parlait de ce trio, hein, Lagarde, Poitrenaud, Cadio, il y aura l'an prochain une sorte de focus, de portrait, notamment qui passera par la MC 93, où Laurent Poitrenaud reprendra tous ces textes d'Olivier Cadio, mis en scène par Ludovic Lagarde. Tous ces solis, me semble-t-il, seront présentés sur quelques jours. J'imagine qu'on y fera un tour. À suivre, dans la dispute Strindberg à la Comédie Française, et un spectacle à voir aussi aux Nuits de Fourvière à Lyon.
France Culture, la dispute, Arne Laporte.
Suite de cette dispute consacrée ce soir au théâtre en nous rendant dans la petite salle du studio théâtre de la Comédie Française pour y découvrir la mise en scène d'Anne Kessler, des créanciers de Strindberg avec Adeline Dermy, Sébastien Poudrou et Didier Sandre. C'est une tragicomédie créée à Copenhague en 1889, qui valut d'ailleurs à son auteur une accusation de plagiat par Strindberg à propos d'Eda Gabler. Bon. De quoi s'agit-il ? Adolphe et Thécla sont un couple à la mode. Lui, il est peintre, va devenir sculpteur peut-être. Elle est écrivaine et elle est aussi très volage. Il ne s'en cache pas. Adolphe a tout donné à son épouse, au prix visiblement de sa propre carrière sur le déclin, alors que celle de Thécla explose davantage. Est-ce qu'on va en dire plus ? On verra après l'extrait.
Quelqu'un est venu ici, qui ? Dis-le-moi.
Tu ne supportes pas que je te regarde ?
Pas comme ça, d'habitude tu ne me regardes pas comme ça.
Comment je te regarde ?
Je ne sais pas autrement, là ton regard vient de sous les paupières. Je t'en prie, regarde-moi normalement. Et puis tu parles aussi d'une manière étrange, avec des expressions, tu philosophes, c'est ça ? Qui est venu ici ?
Mon médecin, c'est tout.
Ton médecin, qui est-ce ?
Le médecin de Stromstadt.
Comment il s'appelle ?
Sjöberg.
Qu'est-ce qu'il t'a dit ?
Il m'a dit entre autres choses que j'étais au seuil de l'épilepsie.
Ah bon, c'est tout ?
Non, quelque chose de très triste aussi.
À savoir ?
Pendant un moment, il nous interdit de vivre comme mari et femme.
Oui, voilà, j'en étais sûre, on veut nous séparer, il y a longtemps que je le sais.
Tu ne peux rien savoir de semblable, ça ne s'est jamais produit.
Ah non ?
Comment pourrais-tu savoir ce qui n'existe pas ? Tu as peur de quoi ? Que j'emprunte les yeux de quelqu'un d'autre pour te voir tel que tu es, et non pas tel que tu parais.
Attention à ton imagination, Adolphe, c'est la gangrène de l'âme humaine.
Voilà, on est là dans la deuxième grande partie de ces créanciers, une pièce en trois temps et un épilogue, puisqu'on a un premier temps deux hommes, Sébastien Poudrou et quelqu'un qu'il vient de rencontrer. Ce deuxième temps, on vient d'entendre Adeline Dermy, donc l'épouse actuelle de Sébastien Poudrou. Il y aura un troisième, puis temps et un épilogue. Philippe Chevillier, premier regard sur ces créanciers.
Ah, ouf. La pièce, moi je la trouve passionnante après réflexion, parce que quand je suis sorti du spectacle, je ne savais plus trop ce que j'en pensais. Passionnante et ambiguë, parce qu'il y a à la fois cette dimension un peu de vaudeville à l'envers, parce que c'est quand même très noir et qu'il y a une mécanique diabolique dans cette pièce. Et qui peut prêter à sourire, mais plutôt des sourires ou des rires étranglés. Donc je raconte pas l'histoire. Hein,
Bah, je viens de dire le.
Ouais, bon,
un petit peu.
Donc le personnage du mari, donc du premier mari, donc le couple a. La jeune femme a divorcé d'un premier mari, s'est séparée d'un premier mari, et il vient réclamer sa créance, c'est-à-dire il vient finalement détruire à la fois le couple, le second mari, et détruire un peu tout.
C'est Didier Sandre.
C'est Didier Sandre qui joue le rôle donc du méchant Gustave. Mmh. Alors cette pièce, elle est passionnante et en même temps, elle peut présenter à mon avis, des difficultés. Elle peut tomber dans le boulevard ou dans le mélodrame. C'est les deux choses qu'il faut un peu éviter. Alors je dirais pas que Anne Kessler est tombée ni vraiment dans le boulevard ni vraiment dans le mélo, mais elle a, à mon avis, sa mise en scène manque un petit peu de force, de folie, de sauvagerie, et du coup on en est quelque chose d'un peu délicat, un peu chic, mais qui moi m'a paru sur la durée un petit peu ennuyeux et manquant de ressort. J'ai pas beaucoup aimé le décor que j'ai trouvé, ce décor lumineux qui est censé exprimer donc un lieu au bord de la mer avec un passage au-dessus avec comme une véranda masquée, on voit les gens qui passent. Mmh. Ça m'a paru trop clair et un peu bourgeois chic, le décor. Et j'ai un petit problème aussi, alors je l'ai vu très tôt, mais dans l'interprétation, j'ai pas été emballé non plus par les comédiens. J'ai trouvé Poudrou assez plat. Didier Sand qui se cherchait encore. Moi, Adeline Vermy, j'ai trouvé que Anne Kessler avait trouvé quelque chose avec elle, parce qu'elle en fait vraiment un personnage très ambigu, à la fois séductrice, un peu arrogante et en même temps très fragile. C'est le personnage qui m'a un peu tenu pendant la pièce, mais au bout du compte, j'en suis sorti un peu mitigé, sans vraiment être emballé. Et j'ai perdu, je trouve, de cet appétit pour la pièce que j'ai retrouvé ensuite en me replongeant un peu dedans. Quoi. Voilà.
René Solis, à présent.
Alors, on n'a pas vu, je crois, le même spectacle, même si j'ai eu moi aussi une impression en sortant un peu bizarre. Je ne savais pas très bien quoi en penser. J'avais une sorte de malaise. Et en même temps, c'est pas mal d'être mal à l'aise quand on sort d'un spectacle. C'est plutôt intéressant. Donc, je me suis demandé qu'est-ce qui était derrière ce malaise. Alors, il y a une chose derrière ce malaise, pour moi, évidente et tout au long de la représentation, c'est que, contrairement à vous, j'ai vu une représentation qui était marquée, mais plus que marquée, martelée, je peux dire, par la présence de Didier Sand. Et Didier Sand, il était totalement, absolument diabolique. C'est-à-dire que ce personnage, qui n'est pas un personnage très sympathique, mais certes, il le tire vers une incarnation du diable et du salopard absolu. Et il a une façon de le faire qui m'a mise presque mal à l'aise, parce que il est rare, je trouve, de voir un comédien malmené à ce point de ses personnages. C'est-à-dire que il y a très difficile de trouver le moindre amour du comédien pour le personnage. On a l'impression que, en même temps, il y a presque une délectation à aller au bout de la noirceur, et c'est vraiment un salopard absolu. Et je trouve que cette interprétation de Didier Sand, du Gustave le salaud total, le diable, déteint finalement sur tout le reste. Et ça donne une lecture de la pièce qui est une lecture, je dirais presque naïve, hein, d'une certaine façon. C'est-à-dire que, en gros, ces personnages qui sont, vous avez raison, c'est plus compliqué, plus ambigu. Il y a un côté vaudevillesque, il y a un côté tragicomique, il y a une dimension comique qui est pratiquement totalement absente du spectacle, et c'est quand même dommage. Et il y a un premier degré, il y a en gros le salaud, le faible et la salope. Voilà. Et ils sont tous les trois, tout le temps, là-dedans, dans ce registre-là, et dans cette histoire-là. Et donc, du coup, d'ailleurs, la pièce de Strindberg, elle devient pas du tout sympathique pour leur dire qu'il y a un côté.
Elle
ne l'est pas, mais je pense qu'elle est un peu plus complexe que ça, un peu plus. Et là, ce qu'on entend, c'est un Strindberg plutôt misogyne, plutôt réac, plutôt, je sais pas. Enfin, il y a tout un fond.
Je fais un peu
la mot
parce qu'il est pas plus misogyne. Enfin, les hommes sont pas mieux, entre un faible et un monstre.
Il est plus que Kipsen, en tout cas. Enfin, ouais. C'est pas. Mais et donc j'ai eu cette sensation que il y avait dans ce théâtre de chambre qui est le studio de théâtre, et c'est tout à fait juste de monter la pièce dans une petite salle, une petite scène. Il se jouait quelque chose, voilà, qui manquait singulièrement de nuances, tout simplement, et qui allait au fond. Mais c'est un spectacle violent d'une certaine façon. Et moi, alors, et encore une fois, paradoxalement, finalement, je préfère les spectacles violents aux spectacles gentils. Donc, voilà. Mais j'ai été totalement à la fois fasciné et presque, effrayé par l'interprétation de Didier Sand.
Alors, Fabienne Pascot à présent sur ses créanciers.
Mais moi, j'ai aimé être effrayée parce que ce que nous montre Didier Sandre avec une interprétation, c'est vrai, c'est Méphisto, c'est le diable, c'est combien, quasiment en temps réel, on peut détruire quelqu'un, quoi. Et ça, c'est formidable, ce côté carnassier qu'il y a dans le spectacle. Et c'est une réflexion quand même. Moi, je considère, alors évidemment, dans tous le, les programmes qui nous sont distribués, dans le dossier de presse, on s'évertue à nous dire, à nous marteler que Strindberg n'était pas misogyne, mais il était en train de divorcer quand il a écrit cette pièce, ah, au moment de Mademoiselle Julie. Il y a une amertume mais colossale, une haine des femmes de... Par exemple, cette pauvre fille, elle s'entend dire tout ce qu'elle, tout ce que les hommes lui ont donné, mais elle, bon sang, elle leur a donné sa jeunesse au premier. Elle, il a dû la connaître quand elle avait 20 ans. C'était une espèce d'Arnolphe qui a trouvé une petite jeune fille qu'il a voulu modeler à sa façon, comme, exactement comme dans l'école des femmes de Molière. On n'en est pas si loin. Donc elle, elle s'est offerte, il en a jubilé quand même de la modeler à sa façon. Et l'autre, qui soi-disant a fait sa carrière, ben, c'est une fille ravissante. Et Adeline Dermy a un côté Marilyn Monroe comme ça, pleine de sex appeal. Ils en ont joui d'elle. Et là, c'est tous ces hommes qui, je crois qu'à un moment dans la pièce, ça m'a sidéré. Le premier mari, interprété par Didier Sandre, décrète doctement. La femme doit être l'enfant de l'homme, parce que sinon l'homme devient l'enfant de la femme et c'est tout simplement inadmissible. Donc, au secours. Mais en tout cas, ça, ce constat-là, moi je l'ai trouvé admirablement porté jusqu'à un côté presque Hitchcockien, Pinterien dans la mise en scène, dans le travail qu'a fait Anne Kessler. Moi j'apprécie beaucoup la manière qu'elle a de diriger jusqu'à l'électricité ultime, jusqu'au ravage les personnages. Et c'est vrai que j'en suis sortie troublée. J'ai d'ailleurs relu le texte après en me disant, mon Dieu, mais c'est pas possible. Et si, c'est possible. Et donc, cette violence de destruction, c'est magnifique, quoi. Ces trois êtres qui s'entretuent devant nous.
Alors pour,
mais la femme va s'en sortir, tant mieux.
Pour rembobiner un peu, la femme va s'en sortir. Vous parliez de Marilyn et ça tombe bien puisque on vient d'apprendre qu'Adeline Dermy a reçu le prix Romy Schneider pour son rôle dans Marilyn, justement le film de Guillaume Gallienne. Donc voilà, ça c'est une, c'est l'info du moment. Alors la misogynie certes, mais il y a quand même surtout le couple, c'est l'enfer. Quel que soit le couple, c'est quand même ça que, sur quoi tape Strindberg. Il est impossible qu'un homme et une femme vivent ensemble de, d'une façon soit équilibrée, soit épanouissante pour l'un et pour l'autre. Il n'y a pas de, il n'y a pas de couple possible. C'est quand même aussi ça que raconte cette pièce. Vous ne l'avez pas précisé, dire que ça commence et que ça termine par un film d'animation projeté sur un voile qui ne m'a pas vraiment convaincu. Je n'ai pas vraiment compris ce que ça faisait dans, dans cette production. Et que, alors, celui au théâtre, c'est le cas assez rarement dans les salles parisiennes, mais c'est un placement libre. Et hier après-midi, que, quand j'ai été voir le spectacle, j'ai eu la chance d'avoir des places au premier rang. Et c'était vraiment une merveilleuse façon de découvrir cette pièce, parce qu'on est vraiment dans l'intimité de ces trois personnages. Et voir en effet Didier Sandre, qui m'a absolument renversé d'un bout à l'autre, d'aussi près, c'est très impressionnant. Enfin, y a vraiment une, on entend sa respiration quand elle est aussi près. Il y a quelque chose de l'animal, comme ça, de la bête monstrueuse qui est en train de préparer son coup. Enfin, c'est quand même quelque chose d'absolument fascinant. Adeline Dermy, Marilyn ou pas Marilyn, alors, je m'interroge sur ces... Peut-être que les metteurs en scène ont remarqué ses qualités de gymnaste, parce que je me souviens déjà, dans Le Petit Maître corrigé, elle prenait des positions invraisemblables tout au long du spectacle. C'est le cas encore, on la tord et on la manipule dans tous les sens, mais là je parle du physique, mais bon, ça lui va très bien. Je trouve qu'elle a une énergie, elle fait une entrée en scène très forte. Enfin, je trouve qu'elle tient vraiment son personnage, oui, vraiment dans toutes ses subtilités, parce qu'elle n'arrête pas, elle aussi, de changer de registre, de femme-enfant à femme-maîtresse. Enfin, il y a quand même quelque chose d'assez impressionnant. Sébastien Poudreau, dont j'ai souvent dit beaucoup de bien dans ses émissions pour d'autres productions, m'a pas semblé, moi, très à l'aise dans ce rôle-là, ou bah, cette langue-là. Alors, est-ce que c'est peut-être le personnage aussi d'une certaine faiblesse, ou de... Il est un peu à côté par rapport aux autres, mais c'est peut-être après tout simplement le personnage qui veut ça. sur la pièce, alors j'ai jeté aussi un œil, surtout sur la fin, parce qu'elle est quand même très abrupte, avec un monologue final du premier mari qui est quand même très explicatif, peut-être un peu trop explicatif, mais peut-être avait-il encore des comptes à régler, Strindberg, en effet, à ce moment-là. Elle est un peu rude, cette fin, non, Fabienne Pascaud ?
Mais surtout, il paraît qu'elle est... Moi, je sais qu'il ne faut pas raconter la fin, mais bon...
Oh, ça finit mal.
Ça finit mal, mais il paraît que ce n'est pas sûr.
Ah bon, d'accord.
Parce que pourquoi Strindberg a voulu appeler ça une tragicomédie ? Parce qu'en fait, une tragicomédie, ça ne se termine pas mal, ça se termine bien, normalement.
Le monologue final du premier mari, il est quand même...
Oui, il est quand même un peu...
Encore, on n'aurait pas compris, il faut quand même...
Un peu tartignol.
Un peu tartignol. Oui. Alors, Philippe Chevillier, vous l'avez peut-être vu trop tôt, en effet. Vous l'avez vu dans les premières
représentations. Moi, je pense vraiment, d'après ce que vous me dites, parce que... Compte tenu du fait, et j'assume encore l'idée que le décor paraît pas très bon, et du coup que tout repose sur la direction d'acteur, j'ai eu l'impression, alors d'un work in progress, on m'avait même dit, enfin, des amis qui sont allés la veille, m'avaient parlé de Didier Sand, justement, qui était vraiment...
Qui n'avait pas tout à fait son texte, c'est ça ?
Non, il connaissait son texte, mais qu'il leur avait paru en deçà. Et moi, m'a paru bien meilleur par rapport à ce qu'on m'avait raconté, mais pas encore là. Et j'ai pensé, moi, justement, j'avais vu, c'était la version de Scaretti qui était à la colline, où il y avait Yordanov qui faisait le diable. Justement, moi, j'ai pensé au diable. Et tout de suite, et là, j'ai trouvé que c'était... Je sentais qu'il y avait un travail qui était encore un work in progress. Et du coup, si les trois... Alors, il y en a un qui est un peu plus, à mon avis, un peu plus faible, qui n'a pas encore trouvé ce que vous disiez, Poudrou. Si il y en a deux, surtout le rôle principal n'est pas encore tout à fait, alors que c'est un immense comédien, Didier Sand, n'est pas tout à fait dans le mood, je pense que là, pour le coup, ça explique une grande partie d'une forme d'un peu d'ennui, de trouver ça trop un peu léger dans le traitement, ou du moins pas assez méchant, pas assez dur, alors que le texte l'est, bien sûr.
Alors qu'il y a une jubilation à voir le mal en action, là.
Bien sûr. Mais Poudrou, c'est son rôle aussi, d'être un peu mièvre, un peu lâche, un peu manipulable.
J'entendais plus dépressif, le côté vieillot du texte dans sa bouche, vous voyez, par rapport à ses camarades de jeu.
Oui, mais il est en pleine décrépitude et il donne bien cette impression-là, quand même.
Oui, ça, au niveau physique, il a trouvé son personnage. René Solis qui sourit en coin, on ne sait pas ce qu'il pense encore.
Toujours.
ça donne envie de voir Didier Sand dans des rôles de méchant, effectivement, parce que, on pense à Richard III, par exemple, tout d'un coup. Ça a révélé en moi. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour Didier Sand, et tout d'un coup, cette fibre de méchanceté, c'est presque une découverte. Il l'a pas assez exploité et il a un avenir là-dedans.
Mais la faute aux metteurs en scène qu'ils ne l'ont pas assez exploité.
Manipulation.
Dans ce Capin, il était à la fois méchant et dans un personnage très comique, ce qui n'est pas non plus forcément habituel.
Bon, Richard III, un peu âgé, pardon, à Didier Sand, mais bon, il faudrait trouver un autre.
Pourquoi ? Non, enfin, il n'y a pas
de âge. Le
roi Lear, plutôt.
Oui. Ça, le roi Lear, oui.
Oui, enfin,
mais c'est une autre forme de méchanceté.
Angela Winkler a joué Hamlet, enfin on peut...
Oui, on peut tout faire, d'accord. Bon, Richard III pour Didier Sand. Mais allez découvrir ces trois comédiens sur le petit plateau du théâtre de la Comédie Française, dans ses créanciers d'Auguste Strindberg. Mise en scène Anne Kessler, c'est à 18h30, rappelons-le que se joue ce spectacle qui dure 1h20. Très précisément.
Formidable, très court.
C'est très bien. On va prendre notre soirée. Enfin, c'est très très bien. C'est jusqu'au 8 juillet.
La dispute. France Culture. Arne Laporte.
La troisième pièce au sommet de cette dispute se joue en ce moment à Lyon, dans le toujours très riche Festival des Nuits de Fourvière. Je n'ai pas pu faire le déplacement, mais vous, tous trois, l'avez fait pour aller voir... Emmanuel Merieux signait l'adaptation, la mise en scène, les lumières, les décors et la vidéo de ce spectacle d'après le livre de Patrick Declercq, Les Naufragés, avec les clochards de Paris, dont le titre est dit assez explicitement le sujet. Le metteur en scène avait déjà précédemment adapté d'autres romans, Russell Banks, enfin un roman ou essai en l'occurrence. Russell Banks était de Beau Lendemain, Sœur Chalandon avec Mon Traître, pour donner des spectacles récents et qu'on a pu voir pas mal tourner. Défi renouvelé ici. Alors, en précisant que Julien Poncet, le directeur du théâtre Comédia Odéon à Lyon, est pour beaucoup dans le fait que ce spectacle ait vu le jour, même si le spectacle se joue actuellement à la Halle d'Elbourg.
D'abord, il y a l'odeur. Une odeur qui vous prend à la gorge, qui imprègne vos vêtements. Une odeur d'aisselle, d'entrejambes, de pieds purulents qui n'ont pas été déchaussés depuis des semaines. J'ai passé 15 ans de ma vie à m'intéresser aux clochards de Paris. Je les ai suivis dans le métro, dans les centres d'hébergement, à l'hôpital, dans la rue. J'ai aidé à les soigner, je pense en avoir soulagé plusieurs. Je sais n'en avoir guéri aucun. Les souvenirs se bousculent. Les morts, les vivants, les morts vivants. Tous ceux que j'ai croisés, le temps d'un comprimé, d'un pansement, d'un repas chaud. Raymond, sa bouille toute ronde et son gros pif de Raymond. Un jour, notre soleil va mourir et on le sait. Et moi, je pense à ça. À chaque fois que mon regard se pose sur une chose. Tout périra.
Les naufragés, d'après le livre de Patrick Declercq, Les naufragés avec les clochards de Paris, en ce moment aux Nuits de Fourvière, c'est Emmanuel Mérieux qui a conçu de moult façons ce spectacle. René Solis, pour commencer à en parler.
C'est un spectacle d'une force visuelle et émotionnelle absolument exceptionnelle. Je ne peux pas dire autrement, qui m'a laissé comme ça, sans voix presque. Même si on peut toujours après coup questionner sur le côté fabriqué de la chose. Enfin, mais il y a d'abord une proposition scénique qui est...
Qu'est-ce qu'on voit ?
Alors, on voit, d'abord on est dans un endroit incroyable qui est un immense entrepôt qui est de ces friches industrielles réutilisées pour le théâtre. Immense entrepôt qui a été une usine, un centre de tri. Enfin, il y a une histoire de un passé industriel assez fort. Donc, on est sur des gradins et puis c'est gigantesque. C'est une nef. Et dans cette nef, on est sur un rivage à l'abandon où il y a un bateau magnifique, un vieux voilier échoué sur un banc de sable. Il y a la mer. Les vagues, il y a de l'eau en projection, il y a de l'eau en vrai, on ne fait pas vraiment la différence. C'est gigantesque, il y a des lumières incroyablement travaillées, il y a une sensation visuelle, une proposition scénographique comme j'en ai rarement vu. Voilà. Et puis il y a un travail sur ce texte, Les naufragés de Patrick Declercq, qui est, lui aussi, je trouve, d'une force formidable. Donc, le livre raconte l'expérience de l'auteur auprès des clochards de Paris, en particulier du centre de Nanterre, là où les bus du SAMU viennent social, amener en bout de course, si on peut dire, de tous les volontaires ou pas vraiment. Et donc, il y a une description extrêmement précise dans le livre de tout ce milieu, cette atmosphère, de cette réalité sociale que on n'a pas envie de voir parce qu'elle est d'un sordide absolu, elle est terrible. Et puis il y a, il raconte comment il a été fasciné quand même par ça, comment il y retourne et comment il finit par rencontrer aussi des gens. Et l'adaptation pour le théâtre, elle est en fait, c'est sur le mode du zoom, c'est-à-dire on prend l'exposé général, donc le comment le narrateur a voulu en savoir plus, les accompagner, aller à Nanterre, etc., prendre le bus. Et puis, ça, la caméra, ou je sais pas comment dire ça, se rapproche sur un personnage, et c'est ce personnage qu'on va suivre et dont on va comprendre peu à peu que le spectacle, en fait, est construit, et de ce point de vue-là, c'est pas complètement comme le livre, comme une sorte de dommage ou de tombeau pour ce clochard mort qui s'appelle Raymond. Et donc, tout le spectacle, finalement, c'est un requiem, un tombeau pour Raymond. Et donc, la façon dont le texte est dit, la façon dont les lumières sont agencées, la façon dont la musique fonctionne, on a entendu, c'est extrêmement joli, c'est vraiment le contrepoint absolu, enfin bon. Tout ça est d'une maîtrise complètement admirable, et j'en suis sorti effectivement fortement touché.
Fabienne Pascoe à présent sur Les Naufragés.
Alors, moi, j'ai presque été trop touchée. Dans un premier temps, je me suis dit, c'est trop, quoi. C'est trop quand on arrive, qu'on voit cette ancienne gare de triage où il y a effectivement la mer reconstituée. Il y a ce bateau qui s'appelle Puck, un clin d'œil à Shakespeare. Il y a ces vidéos gigantesques qui nous montrent les clochards à Nanterre. Il y a une carcasse de voiture enterrée dans le sable. C'est géant. Et tout de suite, je me suis dit, peut-être bêtement, tiens, à part nous, à Fourvière, est-ce que c'est transportable, ça ? Toute cette scénographie magistrale dépensée, est-ce que d'autres pourront la revoir ? Est-ce que c'est pas de la folie, ces spectacles-là, intransportables, qui ne pourront pas tourner ? Bon, ça m'a un peu agacée. Et puis, je suis comme René, je me suis laissée embarquer par le travail déjà sur la langue de François Cotterêle, qui est quand même admirable dans son interprétation, on l'a un peu entendu, et puis par le regard de Patrick de Clercq, qui est un psychanalyste belge, donc qui a lui-même travaillé à Nanterre, sur ses clochards, sur ça. C'est pas du tout politiquement correct ce qu'il nous raconte, parce que le fameux Raymond qu'on voit un peu, j'imagine que c'est lui qu'on voit sur les murs avec une bonne bouille qui rigole et un nez un peu épaté, eh bien il était heureux à Nanterre au cache et finalement une assistante sociale bien intentionnée a voulu le réinsérer, donc lui proposer d'aller travailler à l'extérieur, et puis il n'a pas survécu. Donc ce que nous dit Patrick de Clercq, c'est que ce qu'on propose, les remèdes sociaux qu'on croit proposer à tous ces gens qu'on regarde à peine et pour qui on raisonne comme on raisonne pour les gens normaux, bien portants, qui ont confiance en eux, qui ont de l'amour, qui ont des repères, eh ben ça fonctionne pas du tout, quoi. C'est tout notre regard sur eux qui fonctionne mal, et ça c'est assez bouleversant parce que ça nous remet complètement en cause. De même que le regard de Claire qui avoue détester ces clochards, être dégoûté par eux, trouver qui sentent mauvais, comme on l'a entendu. Tout ça, c'est déstabilisant. Et puis, finalement, ça nous ressemble tellement. Donc, c'est vrai que je me suis laissée totalement embarquer moi-même aussi dans le spectacle.
Philippe Cheville, enfin, sur ces naufragés à voir au nu de Fourvière.
On va pas se disputer, parce que moi aussi, j'étais totalement embarqué et bouleversé. Je crois que ce qui était très très risqué, très osé de la part de Mérieux, c'est de dont on a déjà vu les mises en scène avec ce principe de l'homme face au micro, une très belle scénographie. Là, c'était de voir donc ce que vous disiez tous les deux, en très grand, d'avoir ce décor absolument grandiose.
Et hollywoodien.
Et ce grand écart qu'il y a finalement entre une forme de théâtre documentaire et puis ce théâtre presque lyrique ou onirique. Mais je crois que ça tient parce que d'abord il y a une sincérité chez un vrai talent et une sincérité chez Mérieux. Ensuite parce que je pense que finalement ça fonctionne parce qu'il file la métaphore jusqu'au bout. Les naufragés, cette image du voilier, cette plage, qui est aussi une décharge en même temps, est-ce que vous disiez avec l'automobile, on a vraiment donc cette sensation. En plus, Patrick de Clercq lui-même, qui est un homme de mer, qui cherche à se ressourcer sur la mer, donc il y a ce lien, et ce lien humaniste, enfin de d'espoir, désespoir, qui fonctionne très bien. Et puis, ce que je trouve remarquable aussi, c'est de vouloir justement ne pas faire du pur théâtre documentaire et d'essayer de le tirer vers le théâtre. Et le personnage de Raymond, au détour du livre, donc Patrick Leclerc évoque Puck, évoque le songe d'une nuit d'été, et du coup ça a donné l'idée à Emmanuel Mérieux de transformer ce Raymond en forme de lutin, en forme de Puck, et d'où une fin, alors on va pas, peut-être pas la révéler parce qu'elle est absolument incroyable, où il nous
moi j'ai pas trop aimé la fin.
Alors c'est sur le film, et moi j'aime bien parce qu'on retrouve Stéphane Balmino avec sa voix, on a le droit du Tom Waits en plus du Chopin, mais une chanson aussi qui est une chanson de Requiem d'une certaine façon. Donc moi ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il ose aller jusque là avec un texte aussi fort, aussi radical, aussi âpre, et arriver à jouer du théâtre et de faire du vrai théâtre avec ce qui est, et de pas diluer le propos. Voilà, c'est parce qu'on l'a tous entendu. Et ce que je voulais, pour répondre à Fabienne, c'est vrai que je pense que le spectacle, en fait, il a été créé auparavant. Ils ont découvert cette halle et en fait, s'il tourne, ça sera dans un dispositif beaucoup plus réduit. On aura le sable, on n'aura pas le foyer, on aura les images.
En fait, il a déjà été créé dans un dispositif plus réduit.
Dans un autre dispositif plus réduit. Et pour
la Mérieux, question que vous poser.
Pour Emmanuel Mérieux, l'espoir, c'est de pouvoir refaire des choses à Lyon pour le public lyonnais, des mises en scène dans cet espace, parce que ça lui a ouvert évidemment des horizons, comme à nous, pour faire du théâtre.
Mais finalement, c'est assez beau, cette grandiloquence des décors, parce que c'est un hommage au SDF, c'est un hommage aux clochards. Eux aussi, ils méritent la grandeur, la beauté hollywoodienne, le côté cinémascope.
Oui, et puis ils peuvent se retrouver dans ce genre de lieu aussi.
Exactement.
Un lieu de vie.
Exactement, et c'est ce que disait Planchon, à qui on reprochait toujours parfois le côté grandiose de ces décors. Il disait que les péquenauds, ils aiment les décors grandioses, et que c'était pour ça, en bon péquenaud, qu'ils faisaient ça. Et bien là, je trouve que c'est aussi un...
Ça fait partie du geste.
Ça fait partie du geste et c'est assez beau, ça aussi. C'est comme une offrande.
Oui, je suis complètement d'accord. Ce trop-plein, ce too much qu'on évoquait, ils sont vraiment au service d'un grand dessin artistique, humain, je ne sais pas comment dire ça. Et du coup, voilà, ça tout prend son sens au fur et à mesure. C'est-à-dire, dès qu'on se dit « Ah, là, c'est peut-être un peu trop », Ça reprend une justification, une force, et c'est absolument magnifique. Et puis on a perdu l'habitude aussi un peu de voir des propositions scéniques d'une telle ampleur.
Ça évoque Engel
Castor. Moi je pensais à la Anne Balbec, là où je sais plus comment elle s'appelle, qui était près que la MC 93 avait utilisé avant l'ouverture, peut-être que Ben Mérieux. Coucou à Hortense Archambault. Philippe Levy, vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, c'est sur François Cottrel, donc acteur, comédien qui a joué à tous les rôles classiques apparemment, d'après ce que j'ai compris, et qui est venu avec le projet en fait. C'est lui qui a présenté, et d'ailleurs l'adaptation est co-signée avec Emmanuel Mérieux. Et c'est vrai que ce comédien s'est bien mis dans le moule de Mérieux, surtout de pas tomber dans le pathos et d'arriver à dire ce texte à la fois avec une émotion contenue tout le temps pendant le spectacle dure une heure en tout à peine, et d'arriver à tenir sur cette ligne, c'est quand même assez fort.
Bon, on a envie de le voir. Alors, on peut le voir à la Halle d'Elbourg à Lyon dans les Nuits de Fourvière jusqu'au 23 juin. Les Nuits de Fourvière, Ça dure, ça sera jusqu'au 28 juillet. Il n'y a pas que du théâtre, on le sait bien, il y a aussi beaucoup de musique toujours important. C'est vrai que vous avez vu d'autres choses en allant à Lyon, ou vous avez juste fait l'aller-retour pour Emmanuel Mérieux?
Moi je vais y retourner pour voir Frisch dans son complexe de Georges qui a été créé au Rond-Point, et qui est le grand invité.
Le paradoxe de Georges, oui, il a une carte blanche. Avec pas mal d'invités.
Voilà, donc ça, non, mais sinon...
Pas cette fois-ci, pas René Solis, on a les retours 100% Mérieux. Et pour vous aussi, Philippe Chevillier.
Non, j'y retourne pour aller voir la compagnie Marius dans le Dickens, qui vont monter en 5 heures. Et puis, j'aimerais bien aller voir la compagnie Circa, cette compagnie australienne, qui est avec le Sacre du Printemps, mais ça, je suis pas sûr d'y arriver. Mais c'est vrai que le programme est quand même deux mois alléchant.
Toujours extrêmement copieux et avec le plus souvent quand même de très belles qualités. Les Naufragés, en tout cas, c'est ce spectacle dont nous parlions. D'après le livre de Patrick Declercq, mise en scène Emmanuel Mérieux, c'est jusqu'au 23 juin à la Halle d'Elbourg à Lyon. À présent, Camille André nous a rejoint après son live tweet effréné, comme chaque soir. Elle vient là se poser un peu, mais encore essoufflée, pour le jeu de la dispute et nous rappeler d'abord la question du jeu précédent. C'était vendredi soir, en l'occurrence, quelle était la question, et on va enfin connaître sa réponse, Camille.
Alors, dans quel film d'Aung San Suu, le titre est-il un vers de Louis Aragon ? Et c'est La femme et l'avenir de l'homme.
Voilà, ça c'est pas du Strindberg. Hein. on fait gagner ce soir des invitations pour le spectacle Flexen. Quelqu'un l'a déjà vu ici, le spectacle de Reggie Gray et Peter Sellars, qui va se donner à la Villette à Paris, ça fait toujours très envie. Peter Sellars, c'était quand même un immense. On fait gagner des places pour la représentation de jeudi soir, le 14 juin à 20h30, donc à la Villette. Quelle est la question, Camille ?
Eh bien, d'où le terme de Flexen provient-il ?
On va tout savoir. Si vous avez la réponse, vous nous l'envoyez avec vos coordonnées postales. Tout cela envoyé à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, site sur lequel vous pouvez réécouter nos émissions. Et n'oubliez pas de vous abonner ou réabonner au podcast en passant. Vous pouvez préparer vos commentaires pour l'émission de demain, vous les postez soit sur la page Facebook La Dispute FC dès maintenant ou en suivant aussi le compte Twitter Dispute FC. Au programme donc, une dispute musique à 19h avec Sophie Rosemont, Olivier Lam et Philippe Azoury, et sur nos platines Invasion of Privacy de Cardi B, Tell Me How You Really Feel de Courtney Barnett et puis The Water Wheel, Tribute to Hamza Eldin de Bachar Mar Khalifeh.